Chapitre 19 L'indomptable. J'en désespère, déclara Wyndham Scott. Il était assis au seuil de la cabane de bois qu'il habitait près de Dawson et regardait Matt, le conducteur de ses chiens, qui leva les épaules en signe de découragement. Tous deux observaient Cro-Blanc, hérissé au bout de sa chaîne tendue, grondant férocement et se démenant afin de se jeter sur l'attelage de son nouveau possesseur. Quant aux chiens de l'attelage, Matt leur avait donné quelques bonnes leçons, leçons appuyées d'un bâton, leur enseignant qu'il fallait laisser tranquille Cro-Blanc. Ils étaient en ce moment couchés à quelque distance, apparemment oubliés de l'existence même de leur acrimonieux compagnon. « C'est un loup et il n'y a nul moyen de l'apprivoiser, » reprit Wyndham Scott. « Sur ce point, gardons-nous d'être trop absolu, » objecta Matt. « Peut-être, quoi que vous disiez, a-t-il une part de chien en lui. Ce qui est certain, en tout cas, et je ne crains pas de l'affirmer. » Ici, Matt s'arrêta et secoua la tête d'un air entendu en regardant le Moosehide Mountain, la montagne de la peau d'élan, comme pour lui confier son secret. « Bon, mais ne sois pas avare de la science, » dit Scott un peu aigrement, après quelques minutes d'attente. « Quelle est ton idée? Allez, crache-nous cela !» Matt retourna son pouce vers Cro-Blanc. « Loup ou chien, c'est tout un. Celui-ci a déjà été apprivoisé. »« Oh non, je dis oui. N'a-t-il pas déjà porté des harnais? Regardez à cette place, vous y verrez la marque qu'ils ont laissée sur la poitrine. » « Oui, Matt, tu as raison. C'était un chien de traîneau avant que Beauty Smith eût acquis l'animal. Je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il redevienne. »« Et qu'est-ce qui te le fait penser ?» demanda Scott avec vivacité. Mais, ayant considéré Cro-Blanc, il reprit d'un air désolé. Ben, « Nous l'avons depuis 2 semaines déjà, et s'il a fait des progrès, c'est en sauvagerie. » Il faudrait que vous me laissiez agir à mon gré. Il y a une chance encore que nous n'avons pas courue. C'est de le lâcher pour un moment. » Scott eut un geste d'incrédulité. « Oui, je sais, » reprit Matt. « Vous avez déjà essayé de le détacher, sans seulement parvenir à vous en approcher. Mais voilà, vous n'aviez pas de gourdin. Bon, ben alors tente le coup toi-même. » Le conducteur de chien prit un solide bâton et s'avança vers Cro-Blanc, enchaîné, qui se mit aussitôt à observer le gourdin avec la même attention que prête un lion en cage à la cravache de son dompteur. « Regardez-moi ses yeux, » dit Matt, « c'est un bon signe. Il n'est pas bête, il se garde bien de s'élancer sur moi. Non, 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 il n'est pas sot. » Et comme l'autre main de l'homme s'approchait de son cou, Cro-Blanc se hérissa, gronda, mais se coucha par terre. Il fixait cette main du regard, sans perdre de vue celle qui tenait le gourdin suspendu menaçant au-dessus de sa tête. Matt détacha la chaîne du collier et revint en arrière. Cro-Blanc pouvait à peine croire qu'il était libre. Bien des mois s'étaient écoulés depuis qu'il appartenait à Beauty Smith, et durant cette période, il n'avait jamais connu un moment de liberté. On le détachait seulement lorsqu'on le menait au combat, et celui-ci terminé, on l'enchaînait de rechef. Il ne savait que faire de lui. Peut-être quelque nouvelle diablerie des dieux se préparait-elle à ses dépens. Il se mit à marcher lentement, précautionneusement, se tenant sans cesse sur ses gardes. Ce qui se passait là était sans précédent. À tout hasard, il s'écarta des deux hommes qu'il observait et, à pas comptés, se dirigea vers la cabane où il entra. Rien n'arrivant, sa perplexité ne fit qu'augmenter. Il ressortit, fit une douzaine de pas en avant, et regarda intensément ses yeux. « Ne va-t-il pas s'échapper ?» interrogea Scott. Matt eut un mouvement des épaules. « Oh, c'est à risquer. C'est le seul moyen de nous renseigner. »« Pauvre bête !» murmura Scott avec pitié. « Ce qu'elle attend, c'est quelques signes d'humaine bonté. » Et se disant, il alla vers la cabane. Il y prit un morceau de viande qu'il revint jeter à Gros-Blanc, lequel bondit à distance, soupçonneux et attentif. À un moment, un des chiens vit la viande et se précipita sur elle. « Ici, Major !» cria Scott. Mais l'avertissement venait trop tard. Déjà, Gros-Blanc s'était élancé et avait frappé. Le chien roula sur le sol. Lorsqu'il se releva, le sang coulait goutte à goutte de sa gorge et traçait sur la neige une traînée rouge. « C'est trop de méchanceté, dit Scott, mais la leçon est bonne. » Matt s'était porté en avant pour châtier Gros-Blanc. Il eut un nouveau bond, les dents brillèrent, une exclamation retentit. Puis, toujours grondant, Gros-Blanc se rula de plusieurs mètres, tandis que Matt, qui s'était arrêté, examinait sa jambe. « Oh, mais il a touché droit au but, » annonça-t-il en montrant la déchirure de son pantalon, celle du caleçon qui était dessous et la tache de sang qui grandissait. « Il n'y a pas d'espoir avec lui, je te l'avais bien dit, » prononça Scott avec tristesse. « Après toutes nos méditations à son sujet, la seule consolation et conclusion à laquelle nous arrivons est celle-ci. » Tout en parlant, il avait, comme à regret, pris son revolver. On avait ouvert le barillet et s'était assuré que l'arme était chargée. Matt intercepta. « Non, ce chien a vécu dans l'enfer, monsieur Scott. Nous pouvons attendre de lui qu'il se transforme instantanément en un bel ange blanc. Donnons-lui du temps. Mais pourtant, regarde Major. » Matt se tourna vers le chien qui gisait dans la neige, au milieu d'une flaque de sang et qui se préparait à rendre son dernier soupir. « Mais la leçon est bonne, c'est vous-même qui l'avez dit, monsieur Scott. Major a tenté de prendre sa viande à Gros-Blanc. Il en est mort, c'était fatal. Je ne donnerais pas grand-chose d'un chien qui ne ferait pas respecter son droit en pareil cas. Oui, un droit, tant que tu voudras, mais il y a une limite. » Matt s'entêta. « Mais moi aussi, j'ai mérité ce qui m'arrive. Avais-je besoin de le frapper? Laissons-le vivre pour cette fois. S'il ne s'améliore pas, je le tuerai moi-même. » « Bien, je te l'accorde, » dit Scott en mettant de côté son revolver. « Dieu sait que je ne désire pas le tuer, ni le voir tuer. Mais il est indomptable. Laissons-le courir librement et voyons ce que de bons procédés peuvent faire de lui. » « Essayons cela. » Scott marcha vers Gros-Blanc et commença à lui parler avec gentillesse. « Vous vous y prenez mal, » objecta Matt. « Ne vous risquez pas sans un gourdin. » Mais Scott secoua la tête, bien décidé à gagner la confiance de Gros-Blanc, qui demeurait soupçonneux. Quel événement se préparait? Il avait tué le chien du dieu, mordu le dieu qui était son compagnon. Un châtiment terrible ne pouvait manquer. Hérissé, montrant ses crocs, les yeux alertes, tout son être en éveil, il se tenait en garde. Le dieu n'avait pas de gourdin. Il souffrit qu'il s'approcha tout près de lui. La main du dieu s'avança et se mit à descendre sur sa tête. Il se courba et tendit ses nerfs. N'était-ce pas le danger qui prenait corps? Quelque trahison qui se préparait? Il connaissait les mains des dieux, leur puissance surnaturelle, leur adresse à frapper. Puis il n'avait jamais aimé qu'on le touchât. Il gronda, plus menaçant, tandis que la main continuait à descendre. Il ne désirait point mordre, cependant, et il laissa le péril inconnu s'approcher encore. Mais l'instinct de la conservation surgit, plus impérieux que sa volonté, et l'emporta. Balzer Scott s'était cru assez vif et adroit pour éviter le cas échéant toute morsure. Mais il ignorait la rapidité déconcertante avec laquelle, pareil au serpent qui se défend, frappait Cro-Blanc. Il poussa un cri en sentant qu'il était atteint et prit sa main blessée dans son autre main. Matt était entré dans la cabane et en sortait avec un fusil. « Ici, Matt !» cria Scott. « Que prétends-tu ? » « Je vous ai fait une promesse tout à l'heure, » répondit froidement Matt. « Je vais la tenir. » « J'ai dit que je le tuerai moi-même à son prochain méfait. »« Non, ne le tue pas. » Je le tuerai, ne vous déplaise. Regardez plutôt. » C'était maintenant au tour de Scott de plaider pour Cro-Blanc. Comment aurait-il pu s'amender en aussi peu de temps? On pouvait déjà jeter le manche après la cognée. C'est lui, Scott, qui s'était montré imprudent. Il était seul coupable. Durant ce colloque, Cro-Blanc demeurait hérissé, agressif, toujours décidé à lutter contre le châtiment de plus en plus terrible qu'il avait conscience d'avoir encouru. Sans doute se préparait un traitement qui serait l'égal de celui que lui avait un jour infligé Beauty Smith. Ce n'était plus toutefois vers Scott, mais vers Matt qu'il menaçait. « Mais si je vous écoute, dit Matt, c'est moi qui vais être dévoré. »« Mais pas du tout, c'est à ton fusil qu'il en veut, non à toi. » « Vois comme il est intelligent. Il sait, comme toi et moi, ce qu'est une arme à feu. Baisse ton fusil. » Matt obéit. « Oh, étonnant, en effet, » s'exclama-t-il. « Maintenant, il ne dit plus rien. Cela vaut la peine de renouveler l'expérience. » Matt reprit son fusil qu'il avait déposé contre la cabane, et Cro-Blanc de se remettre aussitôt à gronder. Matt reposa le fusil, fit mine de s'en éloigner, et les lèvres de Cro-Blanc redescendirent sur ses dents. « Maintenant, dit Scott, fais jouer ton arme. » Matt revint vers le fusil, le prit, et le porta lentement à son épaule. Le grondement et l'agitation recommencèrent pour arriver à leur paroxysme lorsque le canon du fusil se mit à descendre, et que Cro-Blanc vit qu'on le couchait en joue. À l'instant même où l'arme fut à son niveau, il fit un bond de côté et s'enfuit dans la cabane. Matt arrêta là l'expérience. Abandonnant son fusil, il se tourna vers son patron et dit avec solennité « Je suis de votre avis, monsieur Scott. Ce chien est trop intelligent pour être tué. » Chapitre 20 Le maître d'amour. 24 heures s'étaient écoulées depuis que Cro-Blanc avait été libéré. La main qui lui avait rendu sa liberté était maintenant enveloppée d'un bandage, caché par un pansement et soutenu par une écharpe afin d'arrêter le sang. Comme Scott s'approchait de lui, il fit entendre son grondement qui signifiait qu'il ne voulait pas se soumettre au châtiment mérité. Car cette idée ne l'avait pas abandonné depuis la veille. Déjà dans le passé, il avait subi des châtiments retardés. Or, il avait commis un sacrilège qualifié en enfonçant ses dents dans la chair sacrée d'un dieu à peau blanche supérieur aux autres. Il était dans l'ordre des choses et dans la coutume des dieux que cet acte fut terriblement payé. S'étant avancé, le dieu s'assit à côté quelques pas de lui. Rien de dangereux en cela. Quand les dieux punissent, ils sont toujours debout. D'ailleurs, le dieu n'avait ni gourdin, ni fouet, ni arme à feu. Lui-même, en outre, était libre. Point de chaîne ni de bâton pour le retenir. Il lui était loisible de s'échapper, de se mettre en sûreté, s'il y avait lieu. Le dieu était resté tranquille, ayant esquissé aucun mouvement. Le grondement commencé reflua dans la gorge de Croc-Blanc et expira. Alors le dieu parla. Le poil se dressa sur le cou de Croc-Blanc et le grondement se précipita en avant. Mais le dieu continua à ne faire aucun geste hostile et à parler paisiblement. Il parlait sans arrêt, avec douceur et sans hâte. Nul n'avait jamais parlé ainsi à Croc-Blanc, avec autant de charme dans la voix. Et il sentit quelque chose, il ne savait pas quoi, remuer en lui. En dépit des préventions de son instinct, une certaine confiance le poussa vers ce dieu. Il lui sembla qu'il était en sécurité en sa compagnie. Au bout d'un long moment, le dieu se leva et entra dans la cabane. Lorsqu'il en sortit, Croc-Blanc l'examina minutieusement et la crainte lui revint. Mais le dieu n'avait encore ni armes ni gourdin. Il ne cachait rien derrière son dos de sa main blessée et dans son autre main, il tenait un petit morceau de viande. Le dieu était revenu s'asseoir à la même place que tout à l'heure. Croc-Blanc dressa ses oreilles et regarda avec soupçon alternativement le dieu et la viande, prêt à bondir au loin à la moindre alerte. Mais le châtiment était retardé. Le dieu se contentait de lui tendre, proche du museau, le morceau de viande qui ne semblait dissimuler rien de dangereux. Les dieux, cependant, ont tous les pouvoirs, et une trahison savamment machinée pouvait se cacher derrière cette viande inoffensive en apparence. Malgré les gestes aimables avec lesquels elle lui était offerte, il était plus sage de n'y pas toucher. L'expérience du passé avait prouvé, surtout avec les femmes des Indiens, que viande et châtiment se mêlaient souvent d'une façon déplorable. Le dieu finit par jeter la viande dans la neige aux pieds de Croc-Blanc, qui la flaira avec attention sans la regarder. Les yeux étaient toujours pour le dieu. Rien n'arriva encore. Le dieu lui offrit un second morceau. Il refusa à nouveau de le prendre et de nouveau le dieu le lui jeta. Ceci fut répété un grand nombre de fois. Mais un moment arriva où le dieu refusa de jeter le morceau. Il le garda dans sa main et fermement le lui présenta. La viande était bonne et Croc-Blanc avait faim. Pas à pas, avec d'infinies précautions, il s'approcha, puis se décida. Sans quitter le dieu du regard, les oreilles couchées, le poil involontairement dressé en crête sur le cou, un sourd grondement roulant dans son gosier afin d'avertir qu'il se tenait sur ses gardes et prétendait ne pas être joué, il allongea la tête, prit le morceau et le mangea. Rien n'arriva. Morceau par morceau, il mangea toute la viande et toujours rien n'arrivait. Le châtiment était encore différé. Croc-Blanc lécha ses babines et attendit. Le dieu s'avança et parla à nouveau avec bonté, puis il étendit la main. La voix inspirait la confiance, mais la main inspirait la crainte. Croc-Blanc se sentait tiraillé violemment par deux impulsions opposées. Il se décida pour un compromis, grondant et couchant les oreilles, mais ne mordant pas. La main continua à descendre jusqu'à toucher l'extrémité de ses poils tout hérissés. Il recula et elle le suivit, pressant davantage contre lui. Il frissonnait et voulait se soumettre, mais il ne pouvait oublier en un jour tout ce que les dieux lui avaient fait souffrir. Puis la main s'éleva et redescendit alternativement en une caresse. Il suivit ses mouvements en se taisant et en grondant tour à tour, car les véritables intentions du Dieu n'apparaissaient pas nettement encore. La caresse fit plus douce, elle frotta la base des oreilles, et le plaisir éprouvé s'en accrut. À ce moment, Matt sortit de la cabane, tenant une casserole d'eau grasse qu'il venait de vider au dehors. « Oh, j'en suis abasourdi !» s'écria-t-il en apercevant Scott. Et comme celui-ci continuait à caresser Gros-Blanc, « Vous êtes peut-être un ingénieur très expert, mais vous avez manqué votre vocation, qui était encore petit garçon, de vous engager dans un cirque comme dompteur de bêtes. » En entendant Matt, Gros-Blanc s'était aussitôt reculé. Il grondait vers lui, mais non plus vers Scott, qui le rejoignit, remit sa main sur la tête de l'animal et le caressa comme avant. Pour Gros-Blanc, c'était le commencement de la fin de son ancienne vie et du règne de la haine. Une autre existence, immensément belle, était pour lui à son aurore. Il faudrait sans doute, de la part de Whedon Scott, beaucoup de soins et de patience pour la réaliser. Car Gros-Blanc n'était plus le louveteau issu du Wild Farouche, qui s'était donné Castor Gris pour seigneur et dont l'argile était prête à prendre la forme qu'on lui destinerait. Il avait été formé et durci dans la haine. Il était devenu un être de fer, de prudence et de ruse. Il lui fallait maintenant refluer tout entier sous la pression d'une puissance nouvelle qui était l'amour. Whedon Scott s'était donné pour tâche de réhabiliter Gros-Blanc, ou plutôt de réhabiliter l'humanité du tort qu'elle lui avait fait. C'était pour Scott une affaire de conscience. La dette de l'homme envers l'animal devait être payée. Tout d'abord, Gros-Blanc ne vit dans son nouveau dieu qu'un dieu préférable à Beauty Smith. C'est pourquoi, une fois détaché, il resta. Et pour prouver sa fidélité, il se fit de lui-même un gardien du bien de son maître. Tandis que les chiens du traîneau dormaient, il veillait et rôdait autour de la maison. Le premier visiteur nocturne qui se présenta pour voir Scott du livré combat à Gros-Blanc avec un gourdin, jusqu'à Scott que vint le secourir. Bientôt, Gros-Blanc apprit à juger les gens. L'homme qui venait droit et ferme vers la porte de la maison, on pouvait le laisser passer tout en le surveillant jusqu'au moment où, la porte s'étant ouverte, il avait reçu le salut du maître. Mais l'homme qui se présentait sans faire de bruit, avec une démarche oblique et hésitante, regardant avec précaution et semblant chercher le secret, oh, celui-là ne valait rien. Il n'avait qu'une chose à faire, s'enfuir en vitesse et sans demander son reste. Chaque jour, Scott continuait à choyer et à caresser Gros-Blanc, qui prit goût de plus en plus à ses caresses. Quand la main le touchait, il grondait toujours, mais c'était l'unique son que put émettre son gosier, la seule note que sa gorge eût apprise à proférer. Il eût voulu l'adoucir, mais il n'y parvenait pas. Et pourtant, dans ce grondement, l'oreille attentive de Scott arrivait à discerner comme un ronron. Lorsque son dieu était près de lui, Gros-Blanc ressentait une joie ardente. Si le dieu s'éloignait, l'inquiétude lui revenait, un vide s'ouvrait en lui et l'oppressait comme un néant. Dans le passé, il avait eu pour but unique son propre bien-être et l'absence de toute peine. Maintenant, il en allait différemment. Dès le lever du jour, au lieu de rester couché dans le coin bien chaud et bien abrité où il avait passé la nuit, il s'en venait attendre sur le seuil glacé de la cabane, durant des heures entières, le bonheur de voir la face de son dieu, d'être amicalement touché par ses doigts et de recevoir une affectueuse parole. Sa propre commodité ne comptait plus. La viande même passait au second plan. Et il abandonnait son repas commencé afin d'accompagner son maître s'il le voyait partir pour la ville. C'était un vrai Dieu, un Dieu d'amour qu'il avait rencontré, et il s'épanouissait à ses chauds rayons. Adoration silencieuse et sans expansion extérieure, car il avait été trop longtemps malheureux et sans joie pour savoir exprimer sa joie. Trop longtemps il avait vécu replié sur lui-même pour pouvoir s'épandre. Parfois, quand son Dieu le regardait et lui parlait, une sorte d'angoisse semblait l'étreindre de ne pouvoir physiquement exprimer son amour et tout ce qu'il sentait. Il ne tarda pas à comprendre qu'il devait laisser en repos les chiens de son maître. Après leur avoir fait reconnaître sa maîtrise sur eux et sa supériorité d'ancien chef de file, il ne les troubla plus. Mais il devait s'effacer devant lui quand il passait et lui obéir en tout ce qu'il exigeait. Pareillement, il tolérait Matt comme étant une propriété de son maître. C'était Matt qui le plus souvent lui donnait sa nourriture, mais Croblant devinait que cette nourriture lui venait de son maître. Ce fut Matt aussi qui tenta le premier de lui mettre des harnais et de l'atteler au traîneau en compagnie des autres chiens. Matt n'y réussit pas. Il ne se soumit qu'après l'intervention personnelle de Scott. Ensuite, il accepta, par l'intermédiaire de Matt, la loi du travail, qui était la volonté de son maître. Toutefois, il ne fut satisfait qu'après avoir repris, en dépit de Matt qui ignorait ses capacités, son ancien rôle de chef de file. « S'il m'est permis, dit Matt un jour, d'expectorer ce qui est en moi, je mets en fait, monsieur Scott, que vous fûtes bien inspiré en payant pour ce chien le prix que vous en avez donné. » « Vous avez proprement roulé, Beauty Smith, abstraction faite des coups de poing dont vous l'avez gratifié. » Pour toute réponse, Whedon Scott fit briller dans ses yeux gris un éclair de l'ancienne colère et murmura par lui « Oh, la brute !» Au printemps suivant, Croblant eut une grande émotion. Le maître d'amour disparut. Divers emballages et paquetages avaient précédé son départ. Mais Croblant ignorait ce que signifiaient ces choses et ne s'en rendit compte que par la suite. Cette nuit-là, vainement, sur le seuil de la cabane, il attendit le retour de son maître. À minuit, le vent glacial qui soufflait le contraignit à chercher en arrière un abri. Il sommeilla quelque peu. Mais vers 2 heures du matin, son anxiété le reprit. Il revint s'étendre sur le seuil glacé, les oreilles tendues à l'écoute du pas familier. Le matin, la porte s'ouvrit et Matt sortit. Il le regarda pensivement. Matt n'avait aucun moyen d'expliquer à l'animal ce que celui-ci désirait connaître. Les jours s'écoulaient et le maître ne revenait pas. Croblant, qui jusque-là n'avait jamais eu de maladie, tomba malade, et tellement malade que Matt dut le traîner à l'intérieur de la cabane. Puis, dans la prochaine lettre qu'il écrivit à Scott, il ajouta un post-scriptum à ce sujet. Whedon Scott se trouvait à Circle City lorsqu'il lut. « Ce damné loup ne veut pas travailler, il prétend ne pas manger. » « Oh, je ne sais que faire de lui. Il voudrait connaître ce que vous êtes devenu et je ne sais comment le lui dire. Je crois qu'il est en train de mourir. » Les renseignements étaient exacts. Croblant, s'il lui arrivait de sortir, se laissait rosser par tous les chiens de l'attelage à tour de rôle. Dans la cabane, il gisait sur le plancher près du poêle, sans accepter de nourriture. Que Matt lui parla gentiment ou jura après lui, c'était tout un. Il se contentait de tourner vers l'homme ses tristes yeux, puis laissait retomber sa tête sur ses pattes de devant et ne bougeait plus. Une nuit où il lisait à mi-voix en faisant remuer ses lèvres, Matt tressaillit. Gros Blanc avait sourdement gémi, puis s'était dressé, les oreilles levées vers la porte et écoutait intensément. Un moment après, un bruit de pas se fit entendre, et la porte s'étant ouverte, Whedon Scott entra. Les deux hommes se serrèrent la main. Puis Scott regarda autour de lui. « Où est le loup ?» demanda-t-il. Il découvrit Gros Blanc, qui s'était à nouveau étendu près du poêle, et qui n'avait pas bondi vers lui comme il fait son chien ordinaire. « Bon sang !» s'exclama Matt. « Regardez s'il remue la queue, ça ne l'arrête pas !» Whedon Scott appela Gros-Blanc qui vint aussitôt sans exubérance. Mais une incommensurable félicité emplissait ses yeux comme une lumière. Scott s'accroupit sur ses talons, bien en face de lui, et commença à lui caresser savamment la base des oreilles, le cou, les épaules, toute l'épine dorsale. Gros Blanc prit son grondement doux, puis portant subitement sa tête en avant, il alla l'enfouir sous le bras de son maître, cachant son bonheur et se dodelinant. Avec le retour du maître aimé, Gros Blanc se rétablit rapidement. Il ne sortit pas de la cabane durant deux nuits et un jour. Quand il reparut dehors, les autres chiens, qui avaient oublié sa force naturelle, ne se souvenant que de sa faiblesse dernière, s'en jetèrent sur lui. Leur déroute ne se fit pas attendre. Ils s'enfuirent en hurlant et ne revinrent que le soir un à un, humbles et rampants, pour témoigner de leur soumission. Assez longtemps après, Scott et Matt étaient une nuit assis l'un en face de l'autre, s'adonnant à une partie de cartes, préliminaire habituelle du coucher. Ils entendirent au dehors un grand cri et des grondements sauvages. « Le loup, dit Matt, est après quelqu'un !» Les deux hommes prirent la lampe et s'élancèrent. Ils trouvèrent un autre homme étendu sur le dos dans la neige. Ses bras étaient repliés l'un sur l'autre, et il s'en servait pour protéger sa face et sa gorge. Le besoin s'en faisait sentir, car Gros-Blanc était dans une rage folle, combattant méchamment et poussant son attaque aux endroits les plus vulnérables. De l'épaule au poignet, les manches étaient lacérées et la chemise de flanelle bleue n'était plus qu'un haillon. Les bras eux-mêmes étaient horriblement déchirés et le sang coulait à flots. Whedon Scott saisit Gros-Blanc par le cou et l'entraîna, se débattant comme un diable. Pendant ce temps, Matt aimait l'homme, aidait l'homme à se relever. Celui-ci, en abaissant ses bras, découvrit la bestiale figure de Beauty Smith. Matt recula comme s'il avait touché un charbon ardent. Beauty Smith cligna des yeux à la lumière de la lampe, regarda autour de lui, et en apercevant Gros-Blanc que Scott tentait d'apaiser, donna de nouveaux signes de terreur. Matt, au même moment, remarqua deux objets tombés dans la neige. Il les examina et reconnut une chaîne d'acier et un fort gourdin. Il les montra à Whedon Scott, qui secoua la tête sans rien dire. Puis il posa sa main sur l'épaule de Beauty Smith, tout tremblant, et le fit pirouetter sur lui-même. Pas un mot n'en fut échangé. Quand le dieu de la haine fut parti, le dieu d'amour caressa Gros-Blanc et lui parla. « On a essayé de te voler, hein, et tu n'as pas voulu. Bien, bien. Il s'était trompé, n'est-ce pas ? Il a dû croire à l'accueil qu'il a reçu, qu'une légion de démons l'assaillait, ricana Matt. Gros-Blanc, encore agité, le poil hérissé, grondait toujours. Puis lentement, ses poils retombèrent et un doux ronron se mit à ronfler dans sa gorge. Chapitre 21 Le long voyage. C'était dans l'air. Groblan pressentait, avant qu'il ne fût, qu'un malheur allait arriver. Ses dieux se trahissaient sans le savoir. Le chien-loup du seuil de la cabane lisait dans leur cerveau. « Écoutez ceci, voulez-vous ? » s'exclama Matt un soir, tandis qu'il soupait avec Scott. Scott écouta. À travers la porte arrivait une sourde plainte, douloureuse comme un sanglot. Un long reniflement lui succéda et la plainte se tut. Groblan s'était rassuré. Son dieu ne s'était pas encore envolé. « Je crois que ce loup devine vos projets, » dit Matt. « Mais que veux-tu que je fasse d'un loup en Californie ?» répondit Scott en regardant son compagnon d'un air embarrassé, qui indiquait une arrière-pensée différente de ses paroles. Ben « C'est bien ce que je dis, » opina Matt. « Que feriez-vous d'un loup en Californie ?»« Les chiens des hommes blancs n'emmèneraient pas large, » poursuivit Scott. Ils les tueraient tous, sitôt débarqués. Je me ruinerais à payer des dommages et intérêts, à moins que la police ne mette aussitôt la main dessus et ne commence par l'électrocuter. C'est un terrible meurtrier, je le sais, pauvre Matt. Dehors, le sanglot se faisait entendre à nouveau. Puis le reniflement interrogateur lui succéda encore. « Il est incontestable, » reprit Matt, « qu'il a des pensées que nous ignorons. Mais comment sait-il que vous allez partir ? Cela dépasse mon imagination. »« Moi non plus, je ne le comprends pas, » dit Scott tristement. Quand le jour fatal fut proche, Groblan, par la porte entr'ouverte, vit le dieu d'amour déposer sa valise sur le plancher et y emballer divers objets. Il y eut aussi des allées et venues. L'atmosphère paisible de la cabane fut perturbée. Le doute n'était plus possible pour Groblan. Son dieu s'apprêtait à fuir une seconde fois, et comme la première, il l'abandonnerait derrière lui. Alors, la nuit qui suivit, il fit retentir le rond hurlement des loups. Ainsi avait-il hurlé dans son enfance, quand, après avoir fui dans le wild, il était revenu au campement indien et l'avait trouvé disparu, quelques tas de détritus marquant seul la place où s'élevait la vieille, la tente de castor gris. Aujourd'hui, comme jamais, il pointait son museau vers les froides étoiles et leur disait son malheur. Dans la cabane, les deux hommes venaient de se mettre au lit. « Il recommence à ne plus vouloir de nourriture, » dit Matt derrière sa cloison. Scott s'agita dans son lit et grogna. Matt continua. « Si l'on juge par sa conduite passée, je ne serais pas étonné que maintenant il meure vraiment pour de bon. »« Ferme !» cria Scott dans l'obscurité. « Tu bavardes pire qu'une femme !» Le lendemain, Groblan prétendit ne pas quitter les talons de son maître et continua à observer les bagages étendus sur le plancher. Deux gros sacs de toile et une boîte étaient venus rejoindre la valise. Dans une toile cirée, Matt roulait les couvertures de Scott et ses vêtements de fourrure. Puis les deux Indiens arrivèrent, qui mirent les bagages sur leurs épaules, et les emportèrent sous la conduite de Matt, chargé lui-même de la valise et des couvertures. Lorsque Matt fut revenu, le maître vint à la porte de la cabane et, appelant Groblan, le fit entrer. « Toi, pauvre diable, » dit-il en frottant doucement les oreilles de l'animal, « apprends que je vais partir pour un long voyage où tu ne pourras pas me suivre et donne-moi encore un grondement, ami. » Un grondement d'adieu, ce sera le dernier. Mais Groblan refusa de gronder. Après un regard pensif vers les yeux du dieu, il cacha sa tête sous le bras de Scott. Hé, il siffle ! Cria Matt. Du Yukon s'élevait le meuglement d'un steamboat. Coupez court à vos adieux, monsieur Scott. Sortez par la porte de devant et fermez-la vivement. J'en ferai autant avec celle de derrière. » Les deux portes claquèrent en même temps avec un bruit sec, scandé bientôt par un gémissement lugubre et un sanglot suivi de longs reniflements. « Matt, tu prendras bien soin de lui, » dit Scott comme il descendait la pente de la colline. « Tu m'écriras et tu me feras savoir comment il se conduit. » « Je n'y manquerai pas, mais écoutez donc ceci. » Les deux hommes s'arrêtèrent. Gros Blanc hurlait comme font les chiens quand leurs maîtres sont morts. Il vociférait sa désespérance. Sa clameur montait en notes aiguës et précipitées, puis en un trémolo misérable, elle retombait comme prête à s'éteindre pour éclater à nouveau en explosions successives. L'Aurora était le premier bateau de l'année qui quittait le Connecticut. Ses ponts étaient bondés de chercheurs d'or qui s'en retournaient les uns après fortune faite, les autres en pitoyable détresse, tous aussi ardents à repartir qu'ils avaient été enragés à venir. Près de l'échelle du bord, Scott serra la main de Matt qui se préparait à redescendre à terre. Mais Matt, sans répondre à cette étreinte, restait les yeux fixés sur quelque chose qu'il voyait à deux pas de lui, derrière le dos de Scott. Scott se retourna. Assis sur le pont, Gros Blanc l'attendait. Les deux hommes échangèrent quelques mots, affirmant chacun qu'ils avaient bien fermé leur porte. Gros Blanc observait, aplatissant ses oreilles, mais toujours immobile. « Je vais le descendre à terre avec moi, » dit Matt. Il s'avança vers Gros Blanc, qui glissa aussitôt loin de lui. Matt courait à sa poursuite, mais Gros Blanc disparut derrière un groupe, tourna tout autour du pont, reparut, s'éclipsa et virevolta sans se laisser capturer. Alors Scott l'appela et il vit et vint en prompte obéissance. Scott se mit à caresser Gros Blanc et remarqua sur son museau des coupures fraîches ainsi qu'une entaille entre ses yeux. Matt passa sa main sous le ventre de l'animal. « Oh, nous avions, » dit-il, oublié la fenêtre. « Il a le ventre tout balafré. Il a parbleu passé à travers les vitres. » Mais Whedon Scott n'écoutait pas. Il pensait rapidement. La bruyante sirène de l'Aurora annonçait le départ. Des hommes se mettaient en mesure de descendre l'échelle du bord. Matt, dénouant sa cravate, s'avança pour la passer autour du cou de Gros Blanc. « Non, 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 pas cela !» dit Scott. « Allez, adieu, mon vieux. Tu peux partir. Quant au loup, inutile de me donner de ses nouvelles, je l'ai avec moi. »« Quoi ?» s'écria Matt. « Voulez-vous dire par là ?»« Je dis ce que je dis. Allez, voici ta cravate. Je t'écrirai à son sujet. » Matt descendit. À la moitié de l'échelle, il s'arrêta. « Mais il ne pourra jamais supporter le climat. Vous le tordrez au moins quand viendront les chaleurs. » L'échelle enlevée, l'Aurora se balança et s'éloigna du rivage. Whedon Scott agita la main en signe d'adieu, puis revenant vers Gros Blanc. « Maintenant, roucoule, toi, damné fou. Allez, roucoule !»